L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
Alors on en parlait il y a quelques instants avec Charlotte Coulson, Lussoin qui appelle donc à la mobilisation mardi devant le Congrès. Et pour en parler, vous recevez son secrétaire général.
Jean-Marc Burette, bonjour.
Bonjour Jean-François, et bonjour aux auditeurs.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir effectivement sur cette mobilisation. Ce n'est pas une grève, hein, c'est une mobilisation qui aura lieu le 3 février prochain devant le Congrès. Est-ce que c'est le bon moment pour descendre dans la rue, manifester, mettre la pression sur les élus, parce qu'il y a tout ça dans votre dans le mouvement du 3 février prochain?
Alors je voulais juste préciser que Lussoin, c'est un syndicat de dialogue avant tout, de propositions et d'action. Donc on a estimé qu'aujourd'hui il était le temps de l'action, on a participé à de nombreuses réunions, on a fait de nombreuses propositions, et aujourd'hui on se rend compte que ça ne répond pas aux inquiétudes des Calédoniens, qui ont été fortement impactés en 2024. Il n'y a rien qui change dans leur quotidien, les familles sont toujours autant en difficulté, et on fait cette mobilisation pour alerter les élus sur les prises de décision rapides, qui doivent être maintenant rapides, puisqu'on ne peut pas continuer à laisser les Calédoniens souffrir et de les laisser comme ça sans réponse et sans visibilité sur leur avenir.
Mais alors, qui visez-vous? Parce que vous refusez la notion de le fait que l'urgence sociale soit terminée. C'est Naïma Moutchou qui avait dit ça, la ministre. C'est l'État que vous visez? C'est les politiques calédoniens? Qui est un peu dans votre viseur?
Nous, on vise personne. On est dans notre rôle. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne peut pas dire que les urgences sont derrière nous. On ne peut pas accepter. On ne peut pas dire que Lussoin noircit le tableau. Aujourd'hui, les difficultés sont réellement présentes sur le terrain. Les personnes qui disent ça, pour moi, elles sont un petit peu hors sol et les propos leur appartiennent. Mais la réalité du terrain est tout autre et on ne peut pas accepter qu'on tourne la page comme ça en disant bah, les urgences sont derrière nous, alors que les familles en peinent à se loger, à se nourrir, à se transporter. Et donc c'est pour ça qu'on demande également à ce que les aides qui sont fournies par l'État soient fléchées et soient contrôlées. Voilà, c'est pas pour boucher des trous dans les budgets des uns et des autres, c'est bien à destination des familles qui sont en forte précarité aujourd'hui.
On va revenir évidemment sur ce point-là, mais vous l'avez dit, vous participez, vous, en tant que syndicat, de nombreuses réunions de travail, des commissions, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Il y a quand même un travail qui se fait aujourd'hui, on ne peut pas dire que... Alors peut-être que les choses n'avancent pas assez vite, mais il y a quand même un travail de fond qui est mis en place.
Il y a un travail de fond, les élus travaillent, moi je ne peux pas dire que les élus ne travaillent pas, sauf que ça ne se concrétise pas. Donc à un moment donné, c'est bien de travailler, c'est bien de phosphorer, mais ce qu'on attend, c'est du concret. Je vous donne un exemple très, très simple. On a discuté maintes et maintes fois sur le RUAM. Aujourd'hui, on continue à creuser le trou parce qu'on est en train de faire une deuxième lecture qui date depuis 5 ans. Alors soit on a un problème, on ne sait pas lire, c'est fort possible, mais pourquoi ça traîne autant? Donc il y a bien, c'est ça qu'on dit, c'est qu'à un moment donné... Trouver des consensus, c'est compliqué. Quand on les trouve, il faut les mettre en œuvre. Et c'est pas la peine de venir avec des amendements, des ceci, des cela. C'est déjà compliqué à trouver des solutions, à trouver des accords. Et en plus, il y en a un qui est certain qui viennent et qui disent, ben moi j'ai la meilleure idée. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc autant mettre en pratique. Et aujourd'hui, si on parle du RUAM, on n'en serait pas là aujourd'hui si on avait pris les décisions il y a 5 ans.
Voilà, mais on ne peut pas refaire l'histoire. Donc aujourd'hui, il faut trouver les solutions qui vont bien. Vous parliez évidemment des amendements. Alors tout le monde, ça fait référence forcément au 2% du FSH, contre lequel vous êtes aussi vent debout. Est-ce que vous pouvez rappeler très brièvement qu'est-ce que c'est que ce 2% et ce que vous contestez aujourd'hui dans la décision qui a été prise par amendement, on le rappelle, lors d'un vote au Congrès?
Alors ce qu'on conteste, hein, c'est que ça aussi, ça fait l'objet de discussions, de consensus. Le FSH, il y a une équipe formidable à la tête du FSH, il y a une gouvernance qui fonctionne bien, c'est une gouvernance paritaire. Les salariés sont très engagés aussi dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'on mette à mal ce consensus qui avait été trouvé par un amendement. Le FSH joue le jeu de la crise. Il est très dynamique, il est agile, mais la gouvernance appartient au conseil d'administration du FSH. Un politique ne peut pas être aussi intrusif dans cette gouvernance. Ce n'est pas possible. Donc
c'est la manière dont ça s'est fait, plus que le...
Il y a à la fois la forme, mais sur le fond, il y avait eu un accord qui avait été trouvé. Et on ne sait pas pourquoi, parce qu'en plus, on est dans l'ordre du mensonger. On dit qu'il y a eu l'accord du FSH. Il n'y a jamais eu l'accord du FSH sur cet amendement-là. Il y a bien eu un accord sur le texte initial, mais pas sur l'amendement. Aujourd'hui, ce que je dis, tout le monde avance prudemment, et d'un seul coup, on dit on va aller prendre de l'argent sur 3-4 ans sans tenir compte des difficultés que pourrait rencontrer le FSH pour maintenir ses salariés. Je rappelle aussi que les salariés ont joué le jeu, et ça, c'est important de le dire, avec des accords de modération, etc. Et aujourd'hui, on dit, ben, y a de l'argent, on va aller le prendre. Y a des choses qui ne vont pas quand même dans la cohérence.
On a l'impression qu'on est dans un moment où il faut prendre des décisions, changer des modèles, rebattre des cartes peut-être d'une façon un peu différente de celle qu'on a connue jusqu'à présent. Mais dès qu'on essaye de le faire, on s'aperçoit que ça fait bouger des habitudes et que les choses sont difficiles. Est-ce que là, on connaît ça dans beaucoup de pays au monde, hein, mais la réforme est quelque chose qui bouscule les habitudes aussi.
Mais nous, Luçoin, on a toujours dit qu'il était nécessaire de réformer. Y compris, si vous revenez sur le 2%, on a dit qu'il fallait ouvrir ce 2%, mais dans les mesures qui étaient acceptables, et tout en gardant que la gouvernance soit gardée au FSH. C'est tout ce qu'on a dit. On n'a pas dit que le 2%, il ne faut pas toucher, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. On est dans un moment de crise où chacun a un rôle à jouer, mais que chacun respecte le rôle de l'autre.
Vous demandez aussi la mise en place d'un nouveau modèle social. C'est justement pour que la voix des syndicats soit mieux prise en compte, c'est pour que le travail avec les partenaires sociaux se fasse mieux et que les résultats soient validés d'une certaine façon.
Je pense que c'est la meilleure des méthodes. C'est pas que les syndicats, c'est tous les syndicats, patronaux et...
Oui, je parlais des partenaires sociaux.
Les partenaires sociaux, qui représentent aussi un petit peu la société civile. Effectivement, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait... On a bien des formats politiques qui se mettent en place pour justement aller plus vite et faire avancer les choses dans le consensus. Et ce qu'on demande justement, c'est qu'on utilise les mêmes méthodes pour les réformes, etc.
Mais après, il y a des décisions qui sont prises et qui ne satisfont pas forcément tout le monde et qui ne reprennent pas l'ensemble des débats. Ça, c'est normal.
Ben écoutez, à partir du moment qu'on met tout le monde autour de la table et qu'on trouve un consensus... Je ne vois pas pourquoi ça pourrait être fait différemment.
Jean-Marc Burette, revenons sur ces fléchages des aides de l'État dont vous avez parlé, parce que ça, c'est quelque chose que vous mettez en avant depuis le début. Vous reprochez finalement à cet accord économique et social, pour faire bref, un manque de lisibilité, que les choses ne sont pas assez claires. Ce fléchage, pourquoi il est essentiel pour vous? Parce que vous pensez qu'il y a un risque que l'argent de l'État ne soit pas forcément utilisé aux fins pour lesquelles il était prévu?
Non, nous, ce qu'on demande, c'est des garanties. Des garanties à ce que cet argent qui... on a milité pour des choses, hein, on a milité pour que la population puisse être soutenue dans ce moment un petit peu critique, et on souhaite que ce fléchage soit fait en ce sens et qu'il soit contrôlé, et voire même qu'on puisse communiquer dessus et partager ce fléchage. Mmh. Voilà, c'est tout ce qu'on dit. Comme je dis, chacun reste dans son rôle, mais il faut que, impérativement, que ça ne serve pas à boucher des trous à gauche et à droite. Quoi.
Et d'avoir en plus un dispositif de contrôle social, c'est-à-dire pour vérifier que les sommes sont bien utilisées pour ce à quoi elles avaient été destinées?
Exactement. Ce que je dis, ce n'est pas pour boucher un trou par-ci, par-là, ou suivant l'actualité du moment, ou la priorité du moment, qu'il y a un fléchage nouveau qui apparaisse. On a connu ça également dans des réformes fiscales, où parfois le fléchage n'était pas très clair et que d'un seul coup, on a une difficulté qui apparaît et ça vient pour boucher cette difficulté.
Donc, il y a des urgences, hein, que tout le monde connaît dans les régimes sociaux. Est-ce que vous pensez que l'argent de l'État doit servir en priorité à ça, pour assainir les systèmes sociaux aujourd'hui? Et est-ce que vous pensez que les réformes qui sont en cours vont permettre de pérenniser? Parce que tout le travail qui est fait aujourd'hui, c'est pour ça, c'est sortir de la crise, mais aussi prévoir la suite.
Je pense qu'il ne faut pas mentir aux Calédoniens, et notamment aux retraités, hein. L'argent de l'État permet de passer plus ou moins l'année 2026 si cet argent est bien fléché. Les réformes seront nécessaires, mais ne couvriront pas le besoin sur les 3, 4, voire 5 années qui viennent. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut entamer les réformes. C'est tout l'objet de notre mobilisation, de façon à ce qu'on ne soit pas sous perfusion et sous menace de rupture de trésorerie sur les régimes. Mmh. On peut aussi parler du RUAM. Aujourd'hui, le personnel de santé, il est en souffrance extrême. Parce qu'on n'a jamais traité le problème du RUAM. Et quand on ne traite pas le problème du RUAM, on ne traite pas le problème de la retraite. Et donc c'est un petit peu l'effet boule de neige. Et ça fait des années que ça dure. Et c'était bien avant les émeutes. Donc pourquoi aujourd'hui on n'est pas capable de... On a plein de choses qui ont été posées sur la table. Pourquoi on n'est pas capable rapidement de sortir des réformes qui font consensus?
Et ça, pour vous, c'est vraiment une priorité absolue?
plus qu'absolue, elle est vitale.
Elle est vitale. Jean-Marc Burette, un mot sur Luçoinck. Vous avez tenu hier une grande conférence de presse. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu Luçoinck dans ce format-là, on va dire. C'est un retour aux affaires pour votre syndicat. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2-3 ans? Il y avait besoin un petit peu de reposer les bases. Comment vous avez dirigé votre syndicat pendant ces 2-3 ans?
Il y a eu un changement chez nous aussi, hein, vous le savez, de secrétaire général. Il y a eu un changement d'équipe. Il a fallu qu'on se remette en selle, sans vous mentir. Mais on a continué à travailler. On s'affichait moins, mais on continuait à participer à tous les groupes de travail. On était présent dans tous les ateliers et on a continué à œuvrer. Aujourd'hui, on a cette capacité à se mobiliser et on souhaite le faire. Et d'ailleurs, je voulais remercier certains syndicats qui nous rejoignent un petit peu dans l'idée et qui reprennent un petit peu nos axes d'inquiétude. À travers ce que vous avez communiqué ce matin.
Alors il y a aussi toujours, mais ça on connaît aussi la communication des syndicats, si les revendications ne sont pas entendues, d'autres actions syndicales pourraient être envisagées. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes prêt à monter le ton, à hausser le ton, mais sur quel mode?
Alors je ne vais pas tout dévoiler la stratégie de Luçoinck, vous vous doutez bien, mais en tous les cas, on ne se laissera pas faire, ça je vous le garantis. On fera tout ce qui est en notre mesure pour qu'on puisse entendre la voix de Luçoinck.
Jean-Marc Burette, le secrétaire général de Luçoinck, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci à vous de m'avoir invité.